France Musique.
Merci Laurent Villarem et on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.
Mr. Louis Armstrong.
Now, good evening, ladies and gentlemen. Listen at this.
Un été avec Armstrong. Épisode 8. You rascal, you.
Hier, nous avions laissé Armstrong et son ami Vic Berton aux mains pas vraiment attentionnées de la police californienne. Leur tort, avoir fumé de la marijuana, ce qui est un délit dans cet état. Louis travaillait toujours au New Cotton Club et Vic Berton jouait dans un hôtel proche. Il paraît qu'Armstrong a pu terminer sa prestation avant d'aller passer la nuit en cellule, tout comme Berton. Berton, un batteur bien oublié à qui l'on doit l'introduction des timbales dans le jazz. Il a beaucoup enregistré avec Red Nichols, Arthur Schutt et leurs amis, Vic Berton et ses timbales dans Delirium. Depuis plusieurs années, Armstrong consommait de la marijuana, une substance souvent fournie par son ami, le clarinettiste camé Metz Mesereau. Lil Hardin ne bouge pas le petit doigt pour sortir son futur ex-mari de cette mauvaise passe. La main secourable viendra de Johnny Collins. Alors celui-là, quel vermine ce Collins, une sorte de gangster grossier selon des musiciens du New Cotton Club. Collins parvient à faire signer un contrat à Louis pour qu'il devienne son impresario. Alors par ruse ou par force, on ne sait pas trop, mais il est arrivé dans un moment où Armstrong n'était pas vraiment en mesure de discuter. Et Tommy Rockwell entame un procès, car lui est furieux de perdre son poulain, qui ressemble d'ailleurs plutôt à une vache à lait. C'est désormais Johnny Collins qui préside aux destinées de Louis Armstrong. Il le fait revenir à Chicago et l'intègre encore dans un nouvel orchestre, celui de Zillner Randolph, Armstrong en devient l'attraction, la vedette, comme avant, avec Dickerson et Louis Russell.
Guy coming up the street look like he's from my hometown. Look like old Charles Alexander, man.
Well, what you say, Nipper?
Well, what you know, Jim?
Oh, nothing much, boy.
How long you been up here, boy?
Oh, I've been up here about a year and a half.
A year and a half?
Well, man, I've been up here a long time myself. I'm going back home.
Well, go on, then.
Oh, I'm going. Get some of them red beans and pig ears. You remember them sweet potatoes, Roger? Get a load of this. This is why I'm going back. All the pale moon shining, the fields below. Dark is grinning on something low. You needn't tell me, boy, because I know. It's sleepy time down south. Soft wind blowing through the pine wood trees. Folks down there live a life of ease. When old mammy falls upon her knees, it's sleepy time down south. Oh, steamboats on the river coming a going, splashing the night away. You hear the banjos ringing, the dog is singing, the dance till the break of day. Dear old Southland, where the dream is on, take me back to the gal of Joan. Oh, how I'd love to hold her in my arms when it's sleepy time down south.
When It's Sleepy Time Down South, c'est l'un des premiers disques enregistrés par Armstrong lors de son retour à Chicago avec encore ses nouveaux collègues. Un titre qui évoque un Sud fantasmé, encore englué dans la ségrégation, qui emprunte un vocabulaire raciste, même pour l'époque. Pourtant, ce titre va devenir l'indicatif d'Armstrong. Alors, Satchmo était-il un oncle Tom, surnom très péjoratif pour désigner les Noirs qui s'accommodaient du système ségrégationniste et de leur place inférieure ? Le silence relatif d'Armstrong sur ces questions lui a été reproché par la suite, mais ça n'a pas eu de répercussions importantes sur sa carrière. Michael White, de l'université Xavier, à la Nouvelle-Orléans.
You know, I teach the history of jazz at Xavier.
Moi, vous savez, j'enseigne l'histoire du jazz. Et quand je parle d'Armstrong, je demande à mes étudiants ce qu'évoque le nom Armstrong. Et depuis 20 ans, je dirais, personne n'a dit Oncle Tom. C'est intéressant parce que je me rends compte que la génération de ceux qui appelaient Louis Armstrong l'Oncle Tom n'est pas la même que celle d'aujourd'hui.
Alors, il ne lutte pas directement contre la ségrégation et le sort réservé aux Noirs, mais il revient aux racines de la musique afro-américaine en ce début des années 30 en enregistrant des gospels. l'une de ses toutes premières incursions dans la musique religieuse, c'est ce titre, « Lord, You Made the Night Too Long », un titre vraiment peu connu où les canons du gospel n'ont pas encore été posés par Thomas A. Dorsey et le style du Golden Gate Quartet. Armstrong y déploie toute sa puissance dans le jeu et dans le chant. Là encore, il est accompagné par l'orchestre de Zinor Randolph.
Alléluia! Alléluia! Alléluia!
L'orchestre enchaîne les tournées épuisantes. En 31, Armstrong revient pour la première fois à la Nouvelle-Orléans. Cela fait 9 ans qu'il n'y est pas allé. Lors d'un concert, le présentateur blanc refuse d'annoncer la formation. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Armstrong prend le micro et se présente lui-même. Et ça, aucun Afro-Américain ne l'avait fait avant lui. Même quand vous êtes une grande vedette dans le Sud, la ségrégation vous rattrape.
Si vous sortiez des lois Jim Crow dans le Sud, la vie était bien meilleure. Vous deviez toujours faire face au racisme et à la ségrégation. Mais la ségrégation n'était pas écrite dans la loi. Vous n'aviez pas à chercher une autre salle de bain, vous pouviez utiliser n'importe laquelle légalement. Vous pouviez utiliser n'importe quelle fontaine à eau, aller où bon vous semble, sans risquer d'être arrêté. Les lois de Jim Crow étaient horribles et ont rendu l'existence des Noirs difficile et dangereuse pour tous ceux qui vivaient dans le Sud. Quand Duke Ellington partait en tournée dans le Sud, il avait ses propres wagons pour lui et son orchestre. Il avait sûrement des voitures dedans pour aller aux alentours. Comme ça, pas de problème. Il restait dedans, cuisinait dedans. Il n'avait pas à faire face à des hôtels qui les rejetaient. Ça rendait les choses plus faciles quand ils allaient jouer en Alabama, par exemple.
Duke Ellington dirige à la même époque un orchestre concurrent, mais avec un son différent, le son jungle, avec cette section de cuivre et leur sourdine. Ellington est un peu en avance sur Armstrong. Il a déjà fait un film en 1929 et dès 1933, il va faire une tournée réussie en Europe. Et surtout, Ellington a un orchestre qui tient bien la route. Il réussit à conserver ses musiciens plusieurs années de suite. Certains sont même des piliers. Le trombone, John Anton, le batteur, Sonny Greer ou encore le saxo, Johnny Hodges. Et d'autres encore. Allez, un petit Duke pour la route, ça ne fait pas de mal. Ellington a déjà tourné dans un film en 1929, Armstrong, lui, doit attendre 1932. Enfin, pas tout à fait. En 1930, il a déjà joué dans X-Flame, alors qu'il habitait près d'Hollywood. Mais de ce film, il ne reste pas grand-chose. Les bobines ont disparu, seuls restent quelques photos. Mais pour les vrais débuts de sa carrière au cinéma, en 1932, Armstrong va partager l'écran avec une vedette. Une immense vedette qui pourtant n'a jamais réellement existé. Et oui, c'est avec Betty Boop que Satchmo démarre une carrière pléthorique au cinéma, mais où la qualité fera souvent défaut. Le film est produit à New York par les studios Fleischer. Dans ce dessin animé, Betty Boop est faite prisonnière par des cannibales, primitifs évidemment. Une fois de plus, Armstrong prête son concours à une vision très réductrice des Noirs. Même en 1932, cela n'a pas pu lui échapper. Il interprète trois morceaux dans ce dessin animé, dont celui-ci, You Rascal.
Much of you for my friend, where you been in the back for the sin? You say no good, you rascal, you. Look at that, yeah! All right, yeah! Look at you, little dog. I tell you, you're the butter boy. Whoa! Lightning, lightning, lightning. Whoa!
As I said before, I'll be glad when you do it, you love you. Love you. Boy, when you lay 6 feet deep, no more fried chicken when you eat all your dogs. I know that'll break your heart. Look at that now. Yeah, yeah. Oh, that's it.
Won't this ever stop?
Boy. Boy, what is it that you got that makes my wife think you hot? Oh, you dog. Bought my wife a bottle of Coca-Cola so you could play on her big shoulder. Ha, you dog. Yes, sir. Like these cats trying to cut me a solo. Oh, but I'm ready. I'm ready.
L'autre film auquel Armstrong participe à la même période est aussi un court-métrage. Le titre, Rhapsody in Black and Blue. Et le propos n'est toujours pas flatteur. Armstrong et son orchestre apparaissent vêtus de peau de bête. Mais le film, aussi idiot soit-il, permet au moins de voir un Louis de 30 ans au meilleur de sa forme. Bon, l'histoire c'est celle d'un pauvre homme assommé par son épouse et qui se rêve roi d'un pays où tous ses désirs sont exaucés. Et son plus grand désir, c'est de voir Louis Armstrong jouer pour lui seul.
If you want to do something to please the king, have Louis Armstrong to play shine.
Why, it will be brought to you by this magic wand.
For born and brought it, what you waiting on then?
I'll be glad when I'm dead, you rascal, you.
Et à la fin, la mégère casse un disque sur la tête de son mari. En juillet 32, Armstrong embarque pour l'Europe. Encore une première, jamais il n'a quitté le pays de l'oncle Sam. Le départ est un peu précipité, mais les maisons de disques, fragilisées par la crise, proposent moins de séances et moins d'engagements aussi. Quand Armstrong pose pour la première fois le pied en Europe, c'est au Royaume-Uni. Mais son impresario en carton, la Johnny Collins, n'a rien préparé. Pas de publicité, pas de déplacement organisé, bref, c'est une pagaille totale. Armstrong fait même un saut à Paris, mais aucun concert n'est donné. Retour aux États-Unis en novembre 32 avec une expérience européenne de 4 mois vraiment pas concluante. Et puis en plus, il faut recaser le trompettiste. Alors d'abord avec Chick Webb au Lincoln Theatre, puis avec Zillner Randolph qui reforme un nouvel orchestre, avec un jeune pianiste, tiens, nommé Teddy Wilson. Cela va donner une très belle séance de disques en janvier 33.
What's the matter with you, boy? Don't you know I got a right to sing the blues? Listen at this. Look out! One, two.
Yeah. I got a right to sing the blues. I got a right to feel low down. I got a right to hang around down among the rim world. A certain gal in this old town keeps dragging my poor heart around. Babe, all I see for me is misery. Oh, I got a right to moan and sigh. Got a right to sit and cry down. Oh, babe, I know the deep blue sea will soon be calling me. It must be love, say what you choose. I got a right to sing the blues.
En juillet 33, deuxième essai européen, mieux préparé cette fois. Dans cette tournée, il est aidé par le chef d'orchestre britannique Jack Hilton, à la tête d'une agence artistique et d'un orchestre assez peu jazz qui ressemble à celui de Paul Whiteman, l'américain, mais qui a compté, comme Paul Whiteman, d'excellents futurs musiciens dans ses rangs, dont des Français d'ailleurs.
Days are here again, the skies above. can't doubt it now. So let's tell the world about it now. Happy days are here again. Your cares and troubles are gone. There'll be no more from now on. Happy days are here again. The skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again.
À Londres, en 1956, la princesse Margaret est venue écouter Louis jouer Mac the Knife et Mahogany All Stomp, et Louis s'est souvenu qu'il avait joué autrefois devant son grand-père, le roi George V.
Well, I looked up there, I said, this was me, Rex, and I laid you rascal you on him.
You wouldn't leave my wife alone. I'd be glad when you rascal you. I'll be glad when you dance, you rascal you. I'll be tickled to death when you leave this earth, you dog. Now I took you for my friend. You tried to drink up all my gin. Oh, you rascal.
Il a quand même dédié ce morceau, Vieille Canaille, au roi George V. Il fallait oser. Mais bon, cela s'est-il vraiment passé avec Armstrong? On peut douter. La tournée européenne se poursuit, bien plus au nord. Suède, Danemark et Pays-Bas. À Copenhague, Armstrong est même filmé et son passage à la radio suédoise en octobre 1933 a été conservé par un amateur. C'est le plus ancien témoignage radiophonique de Satchmo. Il joue « On the sunny side of the street ». Alors attention, ça n'a pas la qualité d'un disque commercial. Armstrong est mort. L'homme à la trompette d'airain n'est plus. Seuls les disques conserveront l'éclat du grand trompettiste. En 1933, lors de sa tournée européenne, il est même annoncé mort par quelques journaux. Les fake news déjà. Il va très bien, Louis. Sauf ses lèvres endolories par trop de trompettes. À Paris, il s'installe rue de la Tour d'Auvergne avec Alpha Smith, sa nouvelle compagne. Ils ne sont pas mariés car Louis n'a pas encore divorcé d'avec Lille. En 1934, il part à l'assaut du public français. Il tourne dans plusieurs villes, dont Nice, qui ne l'oubliera pas en 1948. Les 9 et 10 novembre, il est sur la scène de la prestigieuse salle Pleyel. Daniel Nevers relève peu de critiques négatives, mais le baveux Lucien Rebattet va jusqu'à publier ceci dans l'Action française à propos d'Armstrong. Il miaule, il siffle, il ulule de son instrument, il tire des sons d'une crudité barbare. C'est un primate tout droit descendu de ses cocotiers tropicaux. On sait, nous, ce qu'il adviendra après de ce sinistre écrivaillon. Le producteur Jacques Canetti, lui, a bien senti le talent du jazzman et il n'hésite pas à le programmer partout où il le peut. Avec des situations cocasses, comme à Montpellier, Jacques Canetti s'en souvenait à la radio 60 ans plus tard.
Nous arrivons là-bas et je vois avec étonnement sur l'affiche matinée de gala avec le fameux trompettiste Louis Armstrong et les Noces de Jeannette. En deuxième partie des Noces de Jeannette. Je me dis, c'est pas croyable, comment est-ce qu'on peut mélanger ça? Je vais voir cette dame, Madame de Valmalège. Elle me dit, oui, personne ne vient pour votre trompettiste, personne. Alors, j'ai eu la bonne idée de remonter en vitesse les Noces de Jeannette. Alors, je dis, mettez les Noces de Jeannette en première partie, parce que ça ne va pas autrement. Alors, elle me dit, oui, d'accord. Alors, les Noces de Jeannette se passent dans le délire. Et puis, Armstrong rentre et il commence à chanter. Il y avait un silence absolument, comment dirais-je, frondeur. On disait, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est enrhumé? Elle arrive, Madame de Hamel me dit, qu'est-ce qu'il a? Il est enrhumé? Il est enroué? Je dis, non, il chante toujours comme ça. Mais enfin, c'est pas possible. On ne peut pas laisser chanter cet homme comme ça, il va se casser la voix. Je dis, mais non, il chante toujours comme ça. Et à ce moment précis, commence à tomber sur la scène des sous, des pièces de monnaie, de tous les côtés. C'est le public gentil qui a envoyé des pièces. Et Armstrong, il en mettait un coup, il était content, il ne comprenait pas pourquoi. Et je l'ai vu deux ou trois ans plus tard à New York. Et il m'a dit, oh, Mr. Canetti, vous vous rappelez le grand succès? Oui, je dis partout. Il me dit, mais surtout à Montpellier. Je dis, mais pourquoi à Montpellier? Il dit, mais on m'a jeté de l'argent pour que je continue.
C'est Jacques Canetti, embauché chez Polydor, qui fait enregistrer Armstrong à Paris. Ce seront les seuls disques commerciaux de sa carrière réalisés en dehors des États-Unis. Cette mainmise de Canetti sur le phénomène énerve Hugues Panassier, chacun s'estimant le découvreur d'Armstrong pour l'Europe. Une guéguerre par revue interposée est même engagée. En novembre 34, Armstrong enregistre entre autres l'inusable Tiger Rag à Paris, rebaptisé Super Tiger Rag, comme si ça allait le rajeunir.
Thank you.
tout, Armstrong grave 6 morceaux à Paris, dont 2 versions de St. Louis Blues et On the Sunny Side of the Street, mais en version longue, donc il y a besoin de 2 faces de disque. Pour cette séance, il est accompagné par des musiciens qui ont moins l'habitude de son tempérament. Ce n'est pas aussi bon que la plupart des disques américains, mais il y a quand même l'excellent pianiste Herman Chittison, qui vit et enregistre en France depuis 1933. Herman Chittison, il y a une petite diaspora de musiciens américains à Paris, de passage pour un temps plus ou moins long. Alors, Sidney Bechet n'est plus là, il a été expulsé. Mais il y a Dickie Wells, Teddy Weatherford, et il y a aussi le trompettiste Bill Coleman, ironiquement né à Paris. Alors, non pas à Paris, France, mais à Paris, Kentucky, ville homonyme. Il fera d'ailleurs une grande partie de sa carrière à Paris, France, ce Bill Coleman, et ce, dès les années 30, comme ici, avec Stéphane Grappelli. Thank you. les questions jazz, la France n'est pas en reste. Nous avons Pierre Allier, Alix Combel, Noël Chibouste qui sont les parfaits représentants d'un jazz hot tricolore. Il y a aussi les grands orchestres de variété qui lorgnent vers le jazz. Ray Ventura, Fred Addison, Tom Valtam, Roland Dorsey qui parviennent à attirer de bons solistes. Et puis il n'est pas français, mais il y a Django Reinhardt qui vit en France. D'ailleurs, le guitariste gitan et le trompettiste néo-orléanais se sont rencontrés le temps d'une soirée en 1934. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Mais selon Irakli, Django a tout de même bien écouté Armstrong, assez souvent en tout cas, pour non pas lui piquer les trucs, mais s'en inspirer. À vous de juger.
Écoutez, Django Reinhardt, dans les années 30, là, il joue du Armstrong à la guitare. C'est incroyable. Tous les thèmes qu'il prend, la Ken Liveau ou compagnie, on s'aperçoit. Même Minor Swing, il y a des trucs dedans. Il a piqué des idées et il les a foutues à la guitare, cette manière de... On ne s'en rend pas compte s'il joue la guitare, mais en fait, il connaît Armstrong par cœur, j'en suis sûr et certain. Ils se sont rencontrés, mais bon, Armstrong est allé, il a chanté avec eux, dans un cabaret.
Comme toujours, Armstrong ne se ménage pas et ne sait pas dire non aux contrats qui lui sont proposés. Il s'épuise, ses lèvres le font souffrir atrocement. Les tournées sont éprouvantes, Belgique, Suisse, Afrique du Nord. Et en 1935, c'en est trop. Alors qu'il est à Turin, il rompt son contrat avec Johnny Collins et rentre au bercail. Il embarque fin janvier et il devra attendre 13 années avant de reposer le pied dans une Europe défigurée. De ses 18 mois de passage, il ne reste aujourd'hui pas grand-chose à part les photos et les disques.
Thank you.
Le temps pour Armstrong de traverser l'Atlantique en paquebot, nous le retrouverons la semaine prochaine, vedette du disque, du cinéma et de la radio. Une émission réalisée par Sophie Pichon, que vous connaissez à présent, à la technique Fabien Capel, Emmanuel Lacaze et Hortense Leblouch pour le site internet. Et sur France Musique, c'est l'heure de retrouver Cabaret 42e rue avec Laurent Vallière.
À réécouter sur francemusique.fr.